Bonjour, Steve.
Inflation au mois de mars?
Oui, ben on commence à voir des chiffres. Donc, Statistique Canada hier qui a publié les chiffres du mois de mars et on parle d'une forte hausse des prix de l'essence qui ont fait bondir l'inflation. Donc, lorsqu'on regarde, selon l'agence, on parle de 1,9% pour le mois de mars, là, si on compare avec l'année passée. Et en février, c'était 1,5% d'augmentation. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est les raisons qui expliquent cette inflation-là de 1,9%. Parce que lorsqu'on regarde les principales composantes, on parle de l'essence qui a contribué à 11,6%. Donc, on a une augmentation de 11,6% au niveau de l'essence. Ce qu'il faut dire au niveau de l'essence, là, c'est la plus forte hausse mensuelle depuis 2007. Donc, c'est sûr que l'essence est tenue compte dans l'inflation. Mais lorsque l'essence à elle seule augmente de 11,6%,
ça
peut expliquer beaucoup. Mm-hmm. On parle des voyages organisés aussi qui ont augmenté de 9,6%. Ben là, on peut prétendre que le dur hiver ou le long hiver qu'on a connu a sûrement contribué à faire en sorte que les gens n'ont pas hésité à dépenser pour se payer un voyage, par exemple, dans le sud, un tout inclus, des choses comme ça. Les vêtements pour femmes, on parle d'une augmentation de 2,2%. Le gaz naturel, 3,8%. On sait que ça a quand même été froid les derniers mois. Donc, les aliments achetés au restaurant, on parle de 0,5%. Donc, ça, c'est les notes en général. Et comme je disais, ben, dans le cas de l'essence, là, on parle de la plus forte hausse mensuelle depuis 2007. Fait qu'en excluant la composante, c'est-à-dire l'essence, la croissance mensuelle de l'indice des prêts à la consommation aurait été d'environ 0,3%. Ce qui correspond à peu près à la variation qui provient des fluctuations saisonnières. Ça veut dire que la croissance des prix des autres composantes est demeurée relativement faible en mars. Et ce qui fait dire, entre autres, à l'économiste principal chez Desjardins, M. Benoît P. Durocher, qu'on n'est pas dans une situation où les taux d'intérêt vont augmenter de sitôt de la part de la Banque du Canada, là, parce qu'on vise toujours la cible là, autour de 2%. Et lorsqu'on se situe en bas de ça, ben, il n'y a pas raison là, d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, lui, ce qu'il prétend, c'est qu'avant la mi-2020, donc dans plus d'un an, ça serait surprenant de voir d'autres hausses de taux d'intérêt qui pourraient survenir, là, parce qu'au contraire, on doit user de patience pour s'assurer que l'économie a un bon équilibre là, avant d'agir en...
Et l'inflation, évidemment, c'est un autre des indices hein, qu'on analyse dans tout ça. Mm-hmm. C'est quand même particulier de voir à quel point ça a changé bout pour bout, à peu près en 6 mois. Hein?
Oui. Puis on a toujours les résultats très longtemps. Mm-hmm. Comme là, on commence à voir les résultats de mars, mais ça va être dans quelques mois que vraiment on va voir les résultats réels. Donc, il faut toujours... On augmente les taux. Là, les gens commencent à dépenser moins, sont endettés. Donc, le temps qu'on voit l'impact de tout ça, ça peut prendre plusieurs mois naturellement.
Les milléniaux, comment ils investissent et où ils s'établissent surtout?
Oui, bien, c'est intéressant. Ça, c'est un sondage de la TD qui nous apprend que plus de 8 milléniaux sur 10 souhaitent devenir propriétaires, mais ils vont devoir se rabattre sur les banlieues pour réaliser leurs rêves en raison notamment du coût de plus en plus élevé des propriétés dans les grands centres urbains de la province. Donc, on dit que, d'ailleurs, 84% des milléniaux veulent passer chez les notaires à court terme. Donc, on veut vraiment acheter une maison. Mais même si on dit que 31% des milléniaux préfèrent la ville, la réalité des chiffres fait en sorte que 57% d'entre eux croient qu'ils devront se rabattre sur une maison en banlieue pour acquérir ce qu'ils souhaitent vraiment, soit une nouvelle ou une plus grande maison. Donc, les milléniaux ne se limitent plus aux propriétés en ville, là, surtout quand ils envisagent leurs besoins futurs comme avoir plus d'espace, entre autres, pour élever une famille. Donc, lorsqu'on regarde les données du sondage de TD, on parle de l'abordabilité qui est le facteur le plus important pour 72% des acheteurs milléniaux. On parle de la taille de la propriété, 62%, donc quand même très important aussi. Puis on le sait que la taille, vous risquez d'avoir une maison plus grande ou un terrain plus grand en banlieue qu'en ville.
Pour des prix comparables, en tout cas, au moins.
C'est ça. Lorsqu'on parle de la proximité avec le travail, 58%. Donc, c'est pas une préoccupation, c'en est une, mais pour la moitié environ des gens. On dit que la banlieue devient plus attractive en raison du coût. Ça, c'est la principale raison. On parle de 67%. L'espace extérieur plus grand, 69%. Et le quartier moins bruyant à 65%. Donc, c'est intéressant, les milléniaux, on parle toujours des jeunes adultes âgés entre 25 et 34 ans. Donc, intéressant de voir un petit peu le...
Et ça donne le pouls aussi parce qu'on a vu les banlieues grandir, grossir au cours des dernières années. Ça, c'est un indicatif que ça risque de se poursuivre.
Ben oui, regardez
ce sont les acheteurs de demain.
Regardez juste sur la 10, là, lorsque vous en allez vers Montréal. Tout le tu sais, là, on parle du quartier 10-30 qui était autrefois une banlieue, mais maintenant qui est rendu la grande ville.
Écoute, Bruno, même à la limite pour Sherbrooke, tu sais, même si on ne peut pas vraiment parler de banlieue, mais regarde le pourtour de Sherbrooke qui a grandi de façon assez impressionnante au cours des dernières années.
Oui, absolument.
L'effet se fait ressentir d'une autre façon, mais c'est quand même présent.
Ouais.
Bruno, au plaisir de se reparler demain.
Bye, à demain.